Alors, mais je suis heureuse de vous accueillir tous pour ce deuxième débat du Festival Cinéma et Droits de l'Homme 2021. Donc, une édition un peu particulière puisque nous ne sommes pas en salle, mais en VOD et avec des débats Zoom, mais on résiste, on maintient l'élan. Donc, ce festival toulousain est organisé depuis 14 ans par un collectif d'associations. Il y a 6 ONG. Donc, c'est Amnesty International, l'École des droits de l'homme, Médecins du monde, Médecins sans frontières, le CCF des Terres solidaires et les Amis du monde diplomatique. Donc, pour ma part, je suis membre du CCF des Terres solidaires. Donc, cette année, nous avons déjà lancé une première séance sur la Palestine et cette fois-ci, c'est un film sur le Bangladesh, qui s'appelle donc Made in Bangladesh, que vous avez donc sans doute visionné, et qui illustre la bataille d'une jeune femme ouvrière du textile dans les grandes usines du Bangladesh, et qui essaie de défendre les droits, ses droits et les droits de ses collègues en montant un syndicat. Alors nous avons la chance ce soir d'avoir trois intervenantes très investies dans les problématiques de ce film. Nous avons tout d'abord Naïla Ajaltouni, qui est donc
Bonsoir.
la coordinatrice nationale du collectif Éthique sur l'étiquette. Nous avons Anne-Marie Viguier, qui est membre du collectif Éthique sur l'étiquette de Toulouse. Et Marie Gracier, qui était inspectrice du travail et qui est militante à la CGT. Voilà, alors dans un premier temps assez bref, je vais vous demander à toutes les trois de vous présenter personnellement et puis de présenter un petit peu votre travail, votre association. Donc, Naïla, à vous la parole.
Oui, bonsoir et merci de cette invitation, mais d'organiser ce débat autour d'un film qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, je m'appelle Naïla Ajaltouni, je coordonne le collectif Éthique sur l'étiquette depuis 2007. Voilà, et donc le collectif, donc moi je suis économiste du développement de formation. Et le collectif que je pilote est un regroupement d'ONG, de syndicats, d'organisations de défense des consommateurs qui se sont donné pour mission de défendre les droits humains au travail dans les chaînes de sous-traitance mondialisées, des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et essentiellement le textile habillement. Donc on est un collectif de pression, de pression citoyenne, de plaidoyer. Donc on fait pression sur les grandes multinationales de l'habillement pour les contraindre à respecter les droits de l'homme le long de toute leur chaîne de valeur chez leurs sous-traitants à l'international. Et plus largement, on milite et on travaille de manière très assidue pour imposer des réglementations internationales aux sociétés transnationales avec d'autres collectifs, enfin d'autres ONG et syndicats avec lesquels on travaille beaucoup. Et on a donc, pour nous appuyer dans cette action, une vingtaine de collectifs locaux en France qui relayent les campagnes, organisent des débats et diffusent le message et les revendications du collectif Éthique sur l'étiquette. Voilà.
Voilà, le CCFD Terre Solidaire fait partie du collectif Éthique
Tout
sur
à fait.
l'étiquette.
Le CCFD Terres Solidaires est un des membres fondateurs avec Artisans du Monde, ActionAid Peuple Solidaire, la CFDT, l'un des causes CGT, voilà, la Ligue de l'Enseignement, Oxfam France. Donc il y a 17 ONG et syndicats et c'est aussi c'est le fait que ce soit un collectif pluriacteur qui nous permet d'être assez fort puisqu'on est présent au sein des entreprises pour éventuellement dialoguer par l'action syndicale à l'extérieur pour faire pression. Et puis, j'ai oublié de le dire, on travaille avec près de 150 ONG et syndicats dans les pays de production textile, au Bangladesh, au Cambodge, au Sri Lanka, en Tunisie, ce qui nous donne aussi notre capacité de documentation des violations des droits. Et on est par ce biais très, très proche du terrain et des situations de violation.
Merci Naïla.
Merci.
On va donner la parole à Anne-Marie pour nous présenter rapidement les actions à Toulouse et elle-même.
Oui, bonjour à tout le monde. Alors Anne-Marie Viguier, oui, je suis membre du CCFD Terres Solidaires et référente du collectif éthique sur l'étiquette Haute-Garonne. Voilà, ben ici localement, nous sommes toutes les associations ou ONG, pardon, ou syndicats ne sont pas représentés, mais nous avons Artisans du Monde, la CFDT, la CECO-CFDT, même un membre de la CFDT, puis aussi Oxfam, et peut-être bientôt la CGT, Indecosa, à voir. Voilà, alors notre action ici, comme bien des collectifs locaux en France, c'est faire de la sensibilisation des consommateurs, des citoyens consommateurs, à travers des actions de rue, notamment devant des enseignes des vêtements, et des grandes enseignes, Primark, Zara, H&M surtout. On organise des die-in, enfin des actions de rue pour attirer l'attention et permettre d'aller à la rencontre des consommateurs qui sont là. Notamment, on fait ça au moment des soldes, on cible certaines dates, hein, les soldes d'été, d'hiver, et puis à d'autres moments, pour donc informer les consommateurs et aussi interpeller les marques, parce que c'est vrai que souvent ça les fait réagir. Hein. Je me souviens d'une fois chez H&M, l'une des responsables est sortie en me demandant pourquoi on s'installait devant chez eux, devant leur enseigne, puisque elles avaient une charte éco-responsable. Est-ce que je la connaissais? Bon, voilà, ça veut dire que ça les touche. On fait aussi des interventions dans les établissements scolaires chaque fois qu'on le peut. On a été à Fermat, on a été à l'Institut catholique, et on devait aller en mars dernier dans un collège à Plaisance-Toulouse. Bon, voilà, donc ça c'est important, faire cette sensibilisation. Et puis aussi on relaie toutes les campagnes nationales. Et il y en a quasiment un petit peu tous les ans pour interpeller toujours et faire pression sur les enseignes et sur les marques donneuses d'ordre. Ensuite, on fait aussi un peu, on essaie de faire du plaidoyer. Dans le sens où, par exemple, en octobre dernier, on a interpellé les maires de certaines communes, de nos communes, par rapport pour qu'ils soutiennent un petit peu un appel pour un traité au niveau de l'ONU. Donc, on leur a écrit, on leur a demandé de s'engager, et on a eu comme ça un certain nombre de réponses positives. Et ça nous a permis aussi de nous faire connaître auprès de certains de ces maires. Et en France, je crois qu'il y a eu un certain nombre de réponses positives des maires.
Merci Anne-Marie. Très bien. On se souvient d'actions effectivement émouvantes. Mais je me souviens par exemple d'une partenaire du Cambodge qui était venue nous un printemps et qui a participé à un dying. Elle était en larmes en voyant les actions qui se menaient ici par rapport à la défense de leurs droits.
Alors, on va donner. Remercier, oui.
Oui, oui, oui. Je vais donner la parole à Marie qui va nous apporter son éclairage, enfin l'éclairage de son expérience.
Voilà, je suis Marie Gracier. J'étais effectivement inspectrice du travail pendant plus de 20 ans. Avant, je ne faisais pas ça, je faisais autre chose. Et pendant cette expérience qui a duré fort longtemps, c'est vrai que j'ai toujours été très impliquée sur les sujets des effets pernicieux des sous-traitants successifs et des relations commerciales perverses. Et lorsque j'étais à la retraite, j'ai assez rapidement accédé, je suis allée dans une association qui traite de ces sujets. L'objectif pour moi, c'était de contribuer à améliorer les conditions de vie au travail des salariés dans les pays en développement, alors que ces entreprises dans ces pays en développement sont sous l'autorité lointaine mais réelle des multinationales et de sociétés occidentales. Et mon idée, c'était l'idéal, oui, de créer des syndicats partout. Hein, voilà. Bon, je n'y suis plus dans cette association, mais c'est un sujet que je garde vraiment à cœur. Et par ailleurs, je suis adhérente à la CGT depuis quelque temps. mais sur de tout autre sujet. Mais par contre, je reste donc ça m'intéresse beaucoup ce sujet des entreprises, de la manière dont les entreprises gèrent à longue échéance ce travail auprès des filiales dans des conditions épouvantables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Merci Marie. On va donc donner la parole aux participants. Donc, bien sûr, vous pouvez poser vos questions par le biais de la discussion, du chat. Éventuellement, comme on n'est peut-être pas très, très nombreux, on peut aussi vous donner la parole si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas pour nous proposer des questions. Sinon, on va en lancer quelques-unes de notre côté. Peut-être le temps que les gens réfléchissent, formulent leurs questions, on pourrait demander à chacune des intervenantes, en particulier d'abord à Naïla, quelle est votre réaction devant le film quand vous l'avez vu pour la première fois ou même beaucoup de fois, comment vous avez réagi sur ce film.
Hop, j'enlève mon micro. Je ne sais pas dans quelle mesure les participants ont vu ce film. En tout cas, je vous engage toutes et tous à le voir. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau film, assez puissant, et puis un bel objet de cinéma. Et il nous a vraiment, pour moi, il a vraiment illustré les combats finalement qu'on relaye et qu'on mène au quotidien pour la défense des travailleuses du textile au Bangladesh. L'industrie de l'habillement dans le monde, c'est 85% de femmes, donc 15% d'hommes. Donc, il y a des thématiques éminemment féminines et féministes, bien sûr. Et ce film, il a été fait. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer la réalisatrice une des actrices. Et la réalisatrice l'a vraiment construit sous la supervision d'anciennes travailleuses du textile. Et donc... et donc c'est un film qui reflète plusieurs choses et qui est très important pour moi. D'abord, la lutte des ouvrières pour leur propre émancipation. Donc on voit finalement comment les travailleuses tentent d'organiser un syndicat au sein d'une usine d'habillement pour défendre leurs droits, voir progresser leur situation d'ouvrière et les obstacles en effet auxquels elles vont faire face. Et à côté, on en parlait en préparant ce débat, finalement les luttes contre le patriarcat qui est constant, parce que pour s'émanciper, elles vont s'opposer à leur superviseur dans l'entreprise, le contremaître, au patron de l'usine, au propriétaire de l'usine, à leur mari et à l'administration. Et à tous ces postes, on a des hommes, en fait. Et donc, c'est vraiment un apprentissage de deux luttes pour leur émancipation en tant que femme et en tant qu'ouvrière. Et les droits qui y sont attachés, hein, les droits en tant que personne et puis des droits en tant que travailleuse. Et j'ai trouvé que c'était très réaliste. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et ce combat et comment cette progression, elle est vraiment importante. Et pour moi, ça appelle quelque chose d'autre. C'est un peu notre devoir de solidarité internationale. Je trouve que ce qu'on entend peu dans l'actualité ou dans le film, enfin, pas dans le film, mais dans l'actualité, dans la façon dont on pense les ouvrières dans l'habillement à l'international, on fait parfois l'impasse sur leur combat. On a l'impression que ce sont des femmes ou des hommes passifs, et ils sont loin d'être passifs. L'industrie de l'habillement au Bangladesh, au Cambodge, dans tous les pays, en Tunisie, est traversée constamment de mouvements sociaux, de mouvements de grève, de mouvements de prise de parole dans la rue, de manifestations, même de boycott de leur propre outil de travail. Donc on a loin d'être des travailleurs passifs qui attendent qu'on vienne finalement défendre leurs droits. La grande différence, c'est que très souvent, ces femmes et ces hommes, évidemment, ne sont pas dans des états de droit qui leur garantissent la liberté d'expression, la liberté d'association, et se mobiliser, aller dans la rue, manifester, arrêter leur travail. C'est aussi s'exposer à des répressions qui peuvent aller jusqu'à des emprisonnements arbitraires. Il n'y a pas non plus ensuite les procédures judiciaires pour être libérées sont très compliquées. Et en général, là, je sais que les dernières mobilisations entre 2016-2018 pour une augmentation augmentation de salaire. Ce sont des centaines d'ouvriers qui sont emprisonnés sans motif particulier, qui sont ensuite inscrits sur liste noire, donc qui vont avoir de grandes difficultés à être réembauchés dans des usines une fois qu'ils sont libérés, jusqu'à des tabassages, des violences, et dans les pires des cas, même des ouvriers qui risquent leur vie. Et je trouve que ce type de film nous rappelle que finalement, là, l'objet de nos combats, c'est ces sociétés transnationales qui, par des structures tentaculaires, échappent aux droits, échappent voilà. à des normes sociales auxquelles elles sont soumises en Europe, en France et ailleurs, et qu'elles ne sont pas seulement parties chercher une main-d'œuvre moins chère au Bangladesh, elles sont parties aussi chercher à échapper aux droits sociaux, à des normes, faire de l'évasion fiscale. Donc ça nous redit pourquoi on doit à tout prix réguler, remettre du droit dans cette mondialisation en régulant l'activité de ces grandes sociétés transnationales. Alors il y a une question en effet très intéressante sur la loi devoir de vigilance. Je ne sais voilà. pas, tu me diras si je l'aborde maintenant ou après.
Oui, à moins que et Marie, voulez-vous ajouter quelque oui. chose ouais. Allez-y Marie, puis après on viendra à la loi du
sur voilà, le devoir de vigilance. Voilà, parce que ça peut être un point en tant que tel.
Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose s'agissant du film et des sujets qu'il soulève. Alors, c'est sûr que j'ai un regard qui tient compte de mon métier précédent, mais si on transpose cette réalité qui est actuelle à ce qui se passait à la fin du 19e siècle dans les entreprises françaises, en tout cas, il s'agit des mêmes caractéristiques. Les employeurs fonctionnaient de la même manière et de manière bien moins violente, ils fonctionnent toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ne supportent difficilement la mise en place de syndicats, que ça se traduit par la tentative de dissuader les salariés de monter un syndicat par le biais de menaces, ou alors ils les achètent. C'est la même chose, c'était déjà vrai, c'est toujours vrai. Et s'agissant aussi du patriarcat, du rôle du poids de la religion, on est dans les mêmes schémas. En fait, ce sont des religions monothéistes, désolé, mais enfin, quand on a quelques religions monothéistes qui mettent toujours la femme en dessous et sous l'autorité de l'homme. Et c'est les mêmes caractéristiques. Et pour en revenir à la mondialisation et à cette démarche qu'ont menée les multinationales pour aller s'implanter dans des pays à bas salaires, c'était autant pour bénéficier de ces bas salaires et d'une certaine soumission au départ de salariés qui avaient tout à attendre de l'emploi, mais c'était aussi pour réduire, voire faire disparaître les activités syndicales dans les pays où ils sont, les nôtres. Voilà ce que je voulais dire.
Tout à fait. Merci Marie. Anne-Marie, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, ce que je dirais, moi, j'ai trouvé ce film, je l'ai vu plusieurs fois, puisque l'année dernière, on a animé quelques débats dans des salles, et j'ai trouvé les gens très intéressés à chaque fois. Même quand on n'animait pas de débat, on pouvait faire parfois une présentation, le débat n'étant pas prévu après, mais ça a toujours été très intéressant, parce que les gens étaient intéressés, demandeurs. Alors moi, dans le film... Ce que j'ai envie de dire, c'est l'importance de l'éducation, parce que si l'héroïne, en quelque sorte, enfin elle n'est pas la seule, a pu monter celle qui est la meneuse et qui aide à monter ce syndicat, faire naître ce syndicat, c'est qu'elle a reçu, elle a pu aller à l'école, elle a pu apprendre à lire et à l'écrire, donc ça lui a donné des bases pour pouvoir mener cette lutte, d'où toute l'importance de l'éducation, et ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui au Bangladesh. Et à chaque fois que je revois le film, je me dis oui, il faut soutenir l'éducation là-bas. Alors, c'est pas le travail que fait le collectif Éthique sur l'étiquette directement, mais on en est bien sûr persuadé de cette importance.
Oui, merci Anne-Marie. Alors, on va peut-être redonner la parole à Naïla à propos de la question de Jacques Millot, qui nous parle donc de la loi. Il parle de la loi sur la RSE, en fait, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, cette loi phare qui a été votée en France en mars 2017 et qui est en train de faire des émules au niveau de l'Europe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut réexpliquer. C'est quand même un grand espoir.
Oui. tout à fait. Peut-être un peu de contexte pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette loi. On prend souvent l'exemple du Rana Plaza, donc cet immeuble qui s'est effondré en 2013 précisément au Bangladesh et qui a tué 1138 ouvrières. Il n'y a pas longtemps, je me penchais sur l'histoire, enfin sur la catastrophe d'AZF à Toulouse, c'était 31 morts. 31 morts et 2000 blessés, je crois. Le Rana Plaza, c'est 1138 femmes mortes sous les décombres d'un immeuble et 2000 blessés. Et à quel point on doit toujours s'indigner lorsque des travailleurs, enfin nous tous en fait, sommes mis en danger par, juste pour laisser faire le profit sans entrave en fait. Et ce qu'a montré le Rana Plaza, donc on a vite découvert que beaucoup de marques internationales sous-traitaient leurs vêtements dans cet immeuble complètement délabré qui hébergeait sur 8 étages des ateliers textiles, on ne peut pas parler d'usine en fait, des marques comme CEA, Primark, qui n'étaient pas encore en France je crois à l'époque, Benetton, on a commencé à voir apparaître tous ces noms, Auchan, Camailleux. Et ce que le Rana Plaza a montré, c'est l'irresponsabilité juridique et donc l'impunité dont jouissent les multinationales dans la mondialisation. On n'a pas de loi qui nous permet de remonter la responsabilité à une multinationale européenne pour des dommages, et là on a, sont des atteintes, des violations terribles aux droits fondamentaux, mais ça peut être aussi à l'environnement, qui sont commis à l'international. L'immeuble se serait effondré en France, il y aurait bien sûr des recours juridiques et puis une responsabilité pénale pour aller chercher les responsables. Or, à l'international, ça n'existait pas. Et donc, le Rana Plaza, donc est arrivé en 2013, et depuis plusieurs années, plusieurs ONG tentaient en fait de faire adopter déjà en France une loi qui permettrait de rendre juridiquement responsable une grande multinationale pour les violations des droits fondamentaux et les atteintes à l'environnement commises tout au long de leur chaîne de valeur. C'est-à-dire on ne peut pas faire remonter les profits au-delà des frontières et que la responsabilité ne remonte pas. Donc, si Total peut exploiter du pétrole en Ouganda, il doit être responsable des conditions dans lesquelles il extrait ce pétrole. Et de la même manière pour H&M ou Carrefour, on ne peut pas uniquement échapper aux normes et ne pas avoir de responsabilité. Et on avait été aidé à l'époque, depuis 2011, le cadre normatif international reconnaît une obligation des États de protéger leur population des violations de leurs droits commises par les entreprises et reconnaît aux entreprises une obligation de vigilance. C'est un texte onusien non contraignant adopté au Conseil des droits de l'homme en 2011 et sur cette base, on s'est rassemblés entre ONG et syndicats français et on a décidé de mener un combat pour que ce cadre international soit traduit dans une loi française pour enfin commencer à faire une brèche dans l'impunité des multinationales. Et donc pendant 5 années, je passerai rapidement sur les combats, mais on s'est associé avec le CCFD Terre Solidaire, Amnesty International France, Sherpa, les Amis de la Terre, ActionAid comme groupe central, la CGT, la CFDT, on a vraiment eu une coalition assez inédite, et puis des députés qui ont vraiment porté ce combat à bras le corps, qui se sont extrêmement engagés pour, pendant 5 ans, faire que cette proposition de loi, donc en plus c'était une proposition de loi qui émanait du Parlement, puisse exister. Donc après 5 ans de confrontation au lobby, au ministère de l'économie, dont je rappelle qu'à l'époque il était piloté par un certain Emmanuel Macron, qui a été un des premiers opposants à la loi les plus importants opposants à la loi devoir de vigilance. Donc je le dis parce que ça dit aujourd'hui la fragilité. Cette loi, on l'a arrachée contre les lobbies économiques, contre des ministres qui ne croyaient pas au fait qu'il fallait réguler les multinationales, et en pesant notamment par une mobilisation citoyenne très importante. Donc, les collectifs locaux de toutes nos organisations se sont organisés pour interpeller les députés pendant plusieurs mois, pour organiser des événements. On a vraiment fait en sorte que ça devienne une question de débat public. Et puis, il y a eu tout un travail de lobbying citoyen, en fait, pour argumenter, plaider, pour dire on doit avoir des lois de justice sociale sur ces questions internationales. Elle a été adoptée en mars 2017 et on a été soutenu dans cette action aussi par les fédérations syndicales européennes et internationales. On a beaucoup mobilisé le milieu syndical, par nos collègues dans différents pays européens qui nous ont soutenus pour que cette loi puisse apparaître en France. Notamment à l'époque, quand on avait un gouvernement socialiste, on pensait que c'était, on avait une opportunité, et donc une majorité parlementaire aussi socialiste, qu'on avait une opportunité politique pour que ce type de loi passe. Et je pense qu'on n'aurait pas pu, je pense, avoir le même succès aujourd'hui. Et cette loi, bien sûr, l'idée, c'était, ça n'est pas qu'on régule seulement au niveau français, c'est qu'on ait au moins une directive européenne. Et puis, il y a aussi des travaux pour une norme internationale qui existe. Mais enfin, on sait le temps de la construction d'une loi au niveau européen. Une directive, ça peut prendre 5-10 ans. Et on sait aussi que l'Europe n'est pas un espace... abstrait, il est composé d'États, c'est un espace politique important, et s'il n'y a pas un État qui commence à réguler, il ne peut pas emmener l'Europe avec lui. Donc ça a été un peu le pari qu'on a fait. Et donc depuis, plusieurs tentatives de législation ont essaimé en Europe. L'Angleterre et les Pays-Bas ont légiféré sur le devoir de vigilance, sur le travail des enfants par exemple, mais c'est vrai que la loi française est assez révolutionnaire dans le sens où elle est très large et donc elle oblige les très grands groupes français à publier la liste des mesures qu'elles vont prendre pour prévenir les violations des droits fondamentaux tout au long de leur chaîne de valeur. Et on peut, c'est la première fois au monde en fait, saisir un juge si elle ne publie pas ce plan de vigilance ou si ce plan est mal réalisé. Et en cas de nouveau dommage grave, on va pouvoir aller engager la responsabilité juridique de l'entreprise, donc saisir un juge français pour des dommages commis à l'international. C'est ça le côté révolutionnaire de la loi. Alors pour répondre rapidement où on en est, c'est une loi quand même de compromis qu'on a négociée. Ce n'était pas la loi rêvée des ONG. Nous avions proposé un volet pénal, un volet de sanctions plus abouti. On ne souhaitait pas que ce soit limité seulement aux très grands groupes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plusieurs grands groupes, notamment d'habillement, qui n'ont pas 5000 salariés en France, échappent à cette obligation. Mais enfin, elle nous a permis de, voilà, comme disait souvent Danielle Auroi, la députée qui avait porté la loi au départ avec nous, c'est un pas dans la porte et on essaye de l'ouvrir aujourd'hui avec une directive européenne pour laquelle des travaux sont engagés. On attend l'adoption du rapport parlementaire principal au début du mois de février. Et à partir de ce rapport parlementaire qui est pour nous important parce qu'il a été porté avec ambition, avec un vrai volet de responsabilité, etc., eh bien, tout le travail va être que la Commission s'en saisisse et puis résiste aux lobbies économiques qui vont vouloir amoindrir ce texte et les obligations qui vont leur incomber. Donc, en France, la loi n'est pas totalement mise en œuvre, malheureusement, parce qu'il n'a pas été prévu d'instance pour contrôler la publication des plans de vigilance. Donc, c'est encore le boulot des ONG, malheureusement, et des citoyens. Et on va faire en sorte que sur les enseignements de la loi française, on construise une directive européenne plus ambitieuse. Peut-être je mettrai dans le chat un lien vers un document de recommandation collectif qu'on vient de publier et qu'on envoie à tous les députés. Notre travail de pression, de plaidoyer citoyen va continuer aussi pour essayer qu'on ait une directive européenne qui pallie les difficultés de la loi française.
Oui, Naïla, on a reçu hier du CCFD justement une lettre qui demandait de remplir une consultation par rapport à cette...
Tout à fait.
Voilà.
Donc, absolument.
J'ai transmis, il faut retransmettre pour que... Marie, je crois que je ne vous l'ai pas transmis, il faut que je vous l'envoie. Voilà, donc
je peux le mettre dans le chat parce que ça,
oui,
c'est une chose proposée aussi par la Commission européenne, c'est que tout citoyen puisse donner son avis ou en tout cas dire ce que doit être une telle loi devoir de vigilance. Alors bien sûr, on n'est pas armé en tant que citoyen lambda, nous aussi, on apprend comment. Et donc, on a proposé collectivement, là, toutes les ONG au niveau européen et puis impliquées sur la loi en France, on a proposé que d'aider en fait les gens à faire cette consultation citoyenne avec un formulaire pré-rempli. Et donc, l'idée, c'est qu'un maximum de gens y participent. Donc, je vais mettre tout ça dans le chat pour une action directe qu'on puisse faire, que vous pourrez faire tout de suite, demain, et surtout diffuser.
Oui, parce qu'il dit que c'est écrit que c'est jusqu'au 8 février qu'on doit, on doit répondre.
Voilà, la consultation c'est assez proche. Le 8 février.
Oui, c'est ça.
C'est assez rapide, hein, c'est quelques clics en fait.
Oui, oui, c'est très vite fait, oui, oui. Ouais. Et donc, les organisateurs sont donc une chambre du travail fédérale d'Autriche, une autre fédération des syndicats autrichiens, la coalition européenne pour la justice économique, la Confédération européenne des syndicats, les Amis de la Terre Europe, et après une très longue liste d'associations, dont oui. celle que Amnesty, le CCFD, oui. Clean Clothes Campaign, voilà, etc., etc., etc.
On a une très grosse coordination d'ONG basées à Bruxelles et de syndicats basés à Bruxelles, et ça, c'est voilà. quelque chose d'assez formidable. On arrive à se coordonner pour essayer de faire, d'être une, enfin, de faire peser le rapport de force oui. un peu plus enfin, pour des valeurs auxquelles, enfin, qu'on défend collectivement.
Voilà. Et puis, on voit qu'il y a tous les pays. Il y a vraiment beaucoup de oui. pays qui sont représentés. On voit que c'est proche du terrain, comme vous disiez.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Très bien. Alors, oui, juste une remarque. Je me souviens aussi que, donc, par rapport à cette loi, les ONG avaient eu, c'était réparti un petit peu l'observation des premiers rapports qui avaient été rendus par les entreprises. Je crois que le CCFD avait eu la question alimentaire des entreprises du domaine alimentaire et que ce qu'il avait constaté, c'était que c'était extrêmement rapide le rapport, qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose, quoi. Que donc, ils avaient été contraints à faire quelque chose, mais ça n'allait pas très loin. Donc, il y avait encore beaucoup d'efforts à faire pour être plus contraignant.
Tout à fait. Oui, c'est ça.
Marie, voulez-vous ajouter quelque chose?
Bah, pour l'instant, non, parce que j'écoutais passionnément ce que disait Naïla et non, je ne peux rien ajouter.
Très bien.
Bon, tu as une longue expérience quand même aussi.
Voilà. Oui. Oui, oui, on pourra en reparler.
Oui, oui. Oui.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, j'ai vu une phrase encourageante. Ah si, peut-être une phrase qui dit que ces femmes faisaient preuve d'un immense courage devant les obstacles qu'elles rencontraient. Oui, mais après, c'est les recommandations pour la directive européenne. Très bien.
Françoise, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main.
Ah, d'accord.
Peut-être en cheville.
Alors, donne-leur la parole parce que, ah oui, c'est GalaxyTab, c'est ça? Ah oui, d'accord. Alors, Claire et Jacques, voyons. Ben, on peut donner la parole à Claire et Jacques. Alors, comment je fais?
Oui,
Jacques.
Remercier, parce que c'est moi qui avais posé la question tout à l'heure sur la RSE.
Oui, oui, oui.
Très chaleureusement à Naïla d'avoir donné toutes ces précisions. Alors, juste pour mémoire, pour ceux qui cherchent des infos là-dessus, il y a de temps en temps dans la revue Alternative Économique, alors je ne sais plus quand maintenant, ça fait plusieurs mois, mais il y a eu des articles assez récemment qui faisaient le point justement sur la mise en œuvre de cette loi en France et les difficultés que Naïla vient de rappeler. Hein, donc, je suis complètement d'accord avec elle. C'est un combat très compliqué, à la fois au niveau français, mais surtout européen, et peut-être même au-delà. Donc, je crois que le combat n'est pas terminé et qu'il y a encore beaucoup de travail. Merci en tout cas de ces précisions.
Avec plaisir.
Merci Jacques. Alors, on va donc donner la parole à GalaxyTab.
Oui, allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui.
Bonjour.
Jean-Pierre Clémoula. Oui, bonjour. Juste une question.
Ah, c'est là. Jean-Pierre.
Oui. Une question concernant la RSE. Récemment, il y a eu un référendum en Suisse qui s'est soldé par un échec, puisque la proposition de loi de responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été refusée par référendum.
Oui, très juste.
C'est un problème, parce que ça montre encore que l'opinion, d'abord, est manipulable, mais est surtout pas prête à défendre ce type de combat. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, en fait, il y a une petite nuance qui est liée au système politique suisse, qui est un peu à l'image du système politique américain, avec un fonctionnement en vote populaire, donc citoyen, et en canton, qui seraient un peu les grands électeurs américains. Alors, ce qui est dans cet échec, qui est toutefois une lueur d'espoir, c'est qu'au contraire, il y a une majorité en matière de vote populaire. Donc, les gens ont en majorité voté en faveur de cette régulation, mais les cantons qui sont en fait les cantons les plus riches et là où les entreprises et les fédérations patronales sont les plus présentes, hein, ça, c'est l'analyse que nous ont donné aussi nos collègues suisses et qu'on a vu dans les médias, ces grands électeurs ont davantage pesé parce que ce sont des cantons plus importants. Donc, nos collègues suisses, nos premières réunions avec les collègues suisses, c'était peut-être en 2012-2013, on s'est vraiment suivis pas à pas, tous ensemble, on est intervenus là-bas, ils sont venus ici, on est venus exposer, on a toujours essayé d'ouvrir au niveau européen ces sujets. C'est un peu leur consolation, c'est qu'au contraire, dans un pays comme la Suisse, qui n'est pas un pays de tradition sociale nécessairement, c'est quand même un pays qui a aussi voté pour un vote populaire contre une quatrième semaine de congé, je crois, ou cinquième semaine de congé, c'est complètement délirant en France. Oui. Enfin, d'un prisme français, finalement, pour eux, ça a été une victoire en matière de construction d'un capital politique, puisque le vote populaire a été majoritaire. Et donc, par ce jeu, par l'organisation du système politique, les cantons et les fédérations patronales ont réussi à peser pour que le projet proposé par la société civile soit rejeté. Alors, c'est un système très complexe. L'Assemblée nationale, je pense, fédérale, a proposé ce qu'on appelle un contre-projet. Donc, c'est celui-là qui va être mis en œuvre et qui est très éloigné de ce que proposait la société civile et qui sera en fait une espèce de ce qu'on appelle de reporting, c'est-à-dire a posteriori, les entreprises disent ce qu'elles ont fait pour respecter les droits humains et l'environnement un peu amélioré, alors que l'idée de la loi devoir de vigilance, de la votation citoyenne suisse, de la directive européenne, c'est de prévenir les risques, en fait. Et on dit souvent aux entreprises, on n'est pas là pour s'amuser à vous coller des procès toute la journée. On n'a pas les moyens, ce n'est pas notre boulot et ce n'est pas... ce par quoi on est mu et ce pourquoi on existe. On existe pour prévenir les violations des droits fondamentaux et faire que toute personne dans le monde puisse vivre dignement, indépendamment de vos volontés, de la recherche de profit. Et les lois qu'on mène, elles visent à ça. À ce que les entreprises, si enfin on arrive à introduire un système de sanctions, si enfin elles sont redevables, nous, ce qu'on veut derrière, c'est modifier les modèles économiques, modifier les décisions économiques pour qu'elles soient plus fondées uniquement sur la recherche de profit à tout prix, mais sur le respect d'un socle de droits fondamentaux de base et du respect de l'environnement. Et la sanction, elle n'intervient que pour prévenir, en fait. On est tous sanctionnés dans la société quand on franchit des règles, les États sont redevables, les citoyens sont redevables, il est temps que les acteurs les plus puissants de la mondialisation soient redevables, et pour ça, ça veut dire en effet des systèmes de sanctions et pourquoi pas pénaux. Donc en effet, oui, c'était quand même une déception parce qu'ils ont travaillé des années. C'est dur de relancer ce type de votation, se relancer dans un combat, mais toutefois pour eux, le fait que les citoyens aient en majorité adhéré à ce projet leur permet d'envisager peut-être de futures lois qui pourraient aboutir un jour.
À noter aussi que la Suisse est un pays où il y a de grandes multinationales qui ont leur siège.
Oui, quelques-unes. Ce sont la première contre qui il y a eu du lobbying, Nestlé, dans les années 70, c'est très vieux.
Tout à fait.
Et oui.
Tout à fait.
Oui, je me souviens, j'étais très ado et on protestait contre le lait maternisé qui était vendu là-bas. Oui, oui. Mm-hmm. Mon Dieu. Bien.
J'ai envie de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la Suisse, surtout je n'y connais strictement rien. Mais j'ai envie de revenir sur ce sujet des multinationales qui jusque-là faisaient ce qu'elles voulaient, là où elles voulaient, n'importe quand, et sur le fait que ce qui me paraît fondamental, mais ça vient d'être dit, c'est cette possibilité d'aller au pénal et d'avoir un droit réel et reconnu transnationalement, alors que pour avoir été quelques années dans une association qui s'occupait du RSE, on était dans une approche de pédagogie et tout ça. Et moi, je me disais, mais on n'arrivera jamais à rien avec quelque chose comme ça. On peut toujours faire des tentatives dans les ONG, de contribuer à la compréhension des employeurs pour que, au travers de leurs filiales et des démarches commerciales, ils arrivent au bout à faire quelque chose. Mais c'est perdu, c'est homéopathique et ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que l'homéopathie ne serve à rien. Hein. Attention. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est fondamental qu'il y ait ce seuil du droit. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, c'est la différence entre droit dur et droit mou aussi.
Ça, voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait. Alors,
après, je voudrais rajouter que c'est fondamental. Et puis maintenant, quand on voit les dégâts, on sait maintenant les dégâts que le droit mou a permis de laisser continuer. Donc, il faut arrêter. Il faut s'orienter vers une démarche beaucoup plus volontariste et cette loi le permet. Voilà. C'est tout.
Merci. Bon, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Peut-être une question par rapport à l'histoire de cette ouvrière. Qu'est-elle devenue? Qu'est devenu son syndicat? Naïla, peut-être?
Ah, écoute, je ne sais pas. Alors, bon, là, c'est une fiction, hein, donc
oui.
C'est une fiction, ah, oui. Mais quelques temps après, inspirée en fait, pas forcément d'une histoire en particulier, où je me souviens plus trop ce que m'avait dit la réalisatrice, mais elle relate ici des combats réguliers. Mais on avait fait venir à plusieurs reprises des travailleuses après le Rana Plaza pour venir témoigner, et non seulement témoigner, mais pas seulement être des témoins, être aussi ce sont aussi des femmes qui revendiquent. Et on est parti rencontrer des politiques, il y a eu un très fort écho médiatique. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et le problème au Bangladesh aussi, c'est que donc, c'est un pays qui n'a pas ratifié les deux conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail pour la liberté syndicale et le droit de négociation collective, comme les États-Unis par ailleurs, je le rappelle. Là, dans la Silicon Valley, il y a eu quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est un syndicat, c'est formé chez Google. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, ces États-Unis ne sont pas du tout un pays progressiste sur la question de la liberté syndicale. Or, on sait que la création d'un syndicat, c'est ce qui va déterminer l'accès aux autres droits. Comment revendiquer le meilleur salaire si on ne peut pas s'organiser pour construire ces revendications? Donc, il n'y a pas vraiment de fédération non plus très construite au Bangladesh. Il y a une multitude de syndicats. Et quand on dit syndicat, là-bas, c'est beaucoup des syndicats de boîtes où vous allez avoir des fédérations un peu locales. Donc, nous, on travaille, par exemple, avec deux fédérations syndicales souvent assez politisés, hein, soit communisto, assez à gauche, et puis ils vont avoir aussi un travail humanitaire, par exemple. On était allé avec mon collègue du CCFD justement à l'époque, 6 mois après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Les syndicats sur place, on était à distribuer de la nourriture. Donc il y a aussi cette fonction de proximité aux femmes, et puis toute une question de formation, c'est-à-dire savoir que être ouvrière, être travailleuse, on a des droits en tant qu'ouvrière, en tant que travailleuse, et que ces droits sont protégés par des conventions. Et toute la difficulté dans ces pays, mais on y fait face aussi en France, hein, malheureusement, évidemment, dans une bien moindre ampleur, et il faut qu'on se rende compte de l'importance de l'organisation des syndicats, en fait, et des acquis sociaux, et de ce que ces luttes sociales ont produit. La difficulté là-bas, c'est comment faire quand, en effet, l'état de droit est faible, l'état est défaillant, et il n'y a pas le socle de convention internationale sur lequel s'appuyer, parce que l'état les bafoue. Voilà, donc les syndicats peuvent se créer au sein d'une entreprise, puis se dissoudre et être recréés par ailleurs. Voilà, un pays comme la Tunisie, par exemple, qui a une longue tradition syndicale, est-ce que le GTT était impliqué dans la vie politique? C'était sous Ben Ali le seul espace où il y avait aussi un espace qui crée un rapport de force et dans lequel il y avait toutes les tendances politiques. Donc, la question de la syndicalisation se pose différemment en Tunisie. Et, les femmes, les hommes peuvent plus facilement syndiquer, mais vous allez avoir d'autres difficultés liées à la sécurité sociale, à la précarité du travail, au harcèlement sexuel. Ce sont des choses dont on parle peu, qui ne sont pas toujours faciles pour les ouvrières d'aborder. Surtout que un peu partout, les personnes en responsabilité, comme on dit dans les syndicats, sont des hommes, alors que la majorité sont des femmes. Donc il y a ces questions aussi qui sont peut-être un peu différentes que ce qu'on peut expérimenter dans nos pays. Donc la question syndicale est très sensible au Bangladesh.
D'accord.
Je peux prendre le son ?
Oui. Vas-y.
Bonsoir.
Ah, c'est Monique.
Oui, bonsoir.
C'est Monique.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais une réflexion de Marie Gracier sur peut-être maintenant la possibilité de porter plainte contre une multinationale et le CCFD, après de longs mois de cheminement, de réflexion sur ce sujet, a pris la décision de pouvoir, dans certains cas, d'aller devant la justice. Il y a une plainte contre Total. Est-ce que Naïla peut-être en sait un peu plus que moi, l'instant présent?
Oui, c'est la fameuse loi de devoir de vigilance qu'on a évoquée avant. Et juste réagir, coucou Christiane. Et oui, merci, tu me rappelles qu'en fait, oui, j'ai confondu. Donc, c'est pas une fiction.
Ah, il me semble.
Et, c'est vrai que c'était une histoire, oui, puisque je suis bête, mais la travailleuse était là en France, elle a fait la tournée, elle est venue témoigner et elle lui a dit, bon, moi je suis blacklistée, je peux plus travailler, mais elle avait fait ce choix, elle était aussi protégée par maintenant une notoriété, l'équipe du film, donc elle n'était pas dans le besoin. Et en effet, Christiane, tu précises que ça, je ne savais pas qu'elle est partie en Jordanie.
En Jordanie, oui.
D'accord, et qu'elle a quitté mari et pays. Bon,
oh là là, c'est la révolution.
Pour le mieux, j'espère.
Oh là là.
Et donc, la loi dont tu parles, Monique, c'est en effet la loi devoir de vigilance que j'ai évoquée tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, donc, il faut quand même des conditions particulières pour qu'on puisse déposer plainte. Dans le textile, c'est un peu difficile parce qu'il faut qu'on puisse prouver que l'entreprise, son plan de vigilance est défaillant et que l'entreprise a manqué à son obligation de vigilance. Donc, pour l'instant, les cas juridiques, les cas en justice... sur le fondement du devoir de vigilance, il y en a plusieurs. Bon, ce serait un peu compliqué d'expliquer, mais c'est sur le premier article de la loi, sur le plan de vigilance. Et en effet, nos organisations sont impliquées sur Total en Ouganda. Donc ça, c'est le premier cas pour des violations des droits des travailleurs et de l'environnement à l'international, donc en Ouganda et en Tanzanie. Ce sont les Amis de la Terre au Mozambique. Ce sont les Amis de la Terre et Survie qui ont, donc après des mois de travail, décidé de saisir la justice parce que Total, dans son plan de vigilance, a ignoré un projet gigantesque sur ces deux pays qui met en péril la vie, l'habitat et les droits de 30 000 personnes qui sont déplacées, empêchées de cultiver leurs terres, mal indemnisées et en même temps avec des risques pour l'environnement. Donc, ils ont construit ce dossier énorme juste pour dire déjà votre plan de vigilance ne convient pas. Avec le CCFD Terre Solidaire, ActionAid et donc Éthique sur l'étiquette, on a décidé de porter ce qu'on appelle une contribution volontaire, c'est-à-dire d'appuyer ce cas en tant qu'ONG ayant travaillé très longtemps sur cette loi pour que la décision de la Cour d'appel ne mette pas en péril la loi. Alors, où on en est, c'est que les organisations ont été déboutées par le tribunal judiciaire qui renvoie à un tribunal de commerce le fait de juger du contenu du plan de vigilance. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des participants, donc je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais les organisations ont décidé de faire appel. C'est là qu'on est intervenu avec donc ces deux autres orgas pour appuyer Survie et les Amis de la Terre. L'idée, c'est de dire, est-ce que c'est un tribunal de commerce, c'est-à-dire des commerçants, de juger du plan de vigilance? Nous, on souhaite que ce soit un tribunal judiciaire parce que pour nous, ça n'est pas une question de technique et de gestion, c'est bien une question liée aux droits humains. Et on a perdu en appel tout récemment. Et on va probablement se pourvoir en cassation, ce sont des discussions actuellement, parce qu'il y a pour nous un enjeu, comme c'est le premier cas, il y a aussi un enjeu de jurisprudence pour faire en sorte que, même si dans ce cas-là, on ne juge pas les violations encore, on en est à juger la réalité et la teneur du plan de vigilance, donc d'un document. Il s'agit là pas d'un plan de vigilance sur les questions internes à l'entreprise, mais sur son impact sur la société et les tiers. Et donc, on a vraiment une importance pour nous à ce que ce jugement soit cassé. Et la CFDT, les syndicats s'étaient joints aussi, la CFDT de son côté s'était joint aussi à cet appel. Donc, il y a là une mobilisation des organisations un peu historiques pour faire en sorte que, au moins, tout ce qui a trait au devoir de vigilance, même le document, ne passe pas par des commerçants, mais bien par des juges, des magistrats. Du tribunal judiciaire.
Remarquez, c'est une lutte qui commence, mais bon, c'est déjà une avancée quand même, déjà, qu'on le fasse.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit hein, les juristes, des séminaires de juristes d'entreprise qui commencent à travailler sur ces cas, à se défendre. Moi, j'ai été contactée par une fédération de l'habillement qui m'ont dit clairement « Bon, on entend parler de procès, on préfère prendre contact avec vous avant que les procès nous tombent dessus. » Donc, je les ai secoués, j'ai dit « Vous savez, il était temps, ça fait des années que du côté des fédérations de l'habillement, il ne se passe rien. Vous avez même des entreprises qui vous dépassent. » Or, c'est aussi le rôle de fédération patronale de se poser un peu ces questions de modèle économique, d'impact sur les droits fondamentaux. Donc, quand même, la peur de la sanction, et on voit au niveau européen, on a déjà des fédérations patronales qui s'agitent pour dire ce qu'ils veulent voir dans cette directive européenne, c'est-à-dire rien. Et surtout pas de sanction. On rejoue là au niveau européen ce qui s'est passé. Donc, on ne s'attend pas à ce que cette directive... se passe sans combat de notre part, quoi. ONG comme syndicat.
Mais il ne faudrait pas que la directive européenne bloque l'application de la loi sur la vigilance en France, quand même, hein.
Non, oui, on n'espère pas, d'où l'enjeu que cette directive soit plus ambitieuse et qu'elle prenne en compte les faiblesses de la loi en France. Pour qu'en effet, au moment de la transposition, la loi, on ne puisse pas avoir une loi amoindrie, quoi.
Oui, tout à fait.
Il y a un mouvement très important au niveau européen. On est vraiment organisé, alors même entre ONG et syndicats, ONG entre elles ou société civile, on n'est pas forcément d'accord sur ce que doit être le contenu, mais sur la responsabilité juridique, sur le fait que cette loi doit être transsectorielle, sur un tas de choses, on se retrouve, si vous avez le courage de lire ce doc de recommandation qui n'est pas hyper agréable à lire, même pour nous, au moins ça peut donner un peu une idée des enjeux quoi, autour de ce type de directive. Et pour l'instant, un Parlement qui est assez, des députés qui sont députés qui l'ont porté sont assez alignés en fait sur nos recommandations. Évidemment, on les alimente en toute transparence.
Ça veut donc dire qu'il faut vraiment faire du lobbying au niveau européen.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est vraiment fondamental.
Voilà, le lien vers la consultation là est important. S'il peut circuler, je vous le remets là, c'est important. Ouais. Et en fait, nous, ça fait très longtemps, ces questions européennes. Donc d'abord, on a attendu le renouvellement de la mandature. Mais donc depuis 2019, les travaux... et d'ailleurs, il y a déjà deux rapports parlementaires et le rapport principal en un an. C'est assez rapide en fait comme processus pour l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a peut-être une prise de conscience de cette attente de la société civile et des citoyens. Encore une fois, tout l'enjeu, ça va être que cette directive ne soit pas trop amoindrie, quoi, trop vidée de sa substance qui fera tout son intérêt pour une loi d'efficacité, de prévention des violations.
Alors... Alors,
Alors, je reviendrai bien un petit peu
oui,
pas en arrière, hein, mais au Bangladesh, hein, où la loi sur le devoir de vigilance. Mais par contre, en 2013, après le drame du Rana Plaza, il y avait eu un accord contraignant sur la sécurité des usines et la prévention des incendies au Bangladesh qui avait été signé par des multinationales de l'habillement à l'époque et des syndicats bangladais et internationaux. Alors, cet accord, il s'est en quelque sorte appliqué, mais en 2017, il fallait que 3 ans après, il soit en quelque sorte renouvelé ou reconduit ou renégocié. Je ne sais pas, Naïla, comment on dit. Mais en juin 2017, plusieurs multinationales et des fédérations de syndicats ont signé le renouvellement de l'accord sur la sécurité des usines. Et la prévention des incendies, des risques. Où est-ce qu'on en est, j'avoue que moi j'en suis restée un peu à 2017-2018, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cet accord est beau toujours? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Quand est-ce qu'il va? Il va devoir certainement être renouvelé. Est-ce que c'est tous les 3 ans? Où est-ce qu'on en est?
Alors, c'est malheureusement un des reculs qui ont eu lieu au Bangladesh, c'est-à-dire que donc quand le Rana Plaza s'est effondré, en effet, on a contraint les entreprises transnationales de l'habillement à signer un accord qui est contraignant, par lequel elles s'engagent à financer un système d'inspection pour rénover les bâtiments, les usines au Bangladesh. Et on le sait peu, mais j'en essaie de le redire, cet accord, on l'avait déjà construit avant le Rana Plaza, parce qu'à l'époque, donc c'était Peuple Solidaire, ActionAid Peuple Solidaire, on avait documenté plus de 700 morts depuis 2005, je crois, donc entre 2005 et 2013, dans des effondrements d'usines ou des incendies d'usines au Bangladesh, dont le parc fournisseur a cru de manière exponentielle dans les années 2000-2010. Le Bangladesh est devenu le deuxième atelier, je ne sais pas si vous voyez la différence entre la taille entre la Chine et le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est encore le deuxième exportateur de textiles habillement au monde. Donc, c'est considérable. Et donc, ces entreprises ont pullulé sans qu'il y ait un investissement dans une industrie qui soit d'abord qu'on puisse former des travailleurs et qu'on ne produise pas seulement des vêtements low cost de mauvaise qualité dans de mauvaises conditions. Et notamment, il n'y a pas eu de travail sur les bâtiments. Donc, les incendies d'usines et les effondrements étaient légion. 700 morts pour nous, donc en 8 ans, c'était déjà considérable. En décembre 2012, il y avait eu l'incendie de l'usine Tazrin, dans lequel 112 travailleuses sont mortes. C'était déjà pour nous des points de non-retour. Et en fait, il a fallu, et donc on avait été voir ces marques en disant, voilà, ça fait des mois qu'on documente ça. Allez-vous vous engager à au moins, en tant que donneur d'ordre internationaux, sécuriser les bâtiments des travailleuses à qui vous sous-traitez vos vêtements, en fait. Vous êtes responsable de leur sécurité. À l'époque, Auchan, Carrefour nous avaient retoqué et on était en train de prendre des rendez-vous et le Rana Plaza s'effondre. Et au mois de mai, donc un mois après, donc évidemment, là, c'est une mobilisation internationale hein, avec Industriol, donc la Fédération syndicale de l'industrie internationale, nos réseaux européens, etc. Là, il y a eu un branle-bas de combat et les entreprises sont venues signer cet accord a posteriori parce qu'elles avaient besoin aussi de redorer une image sérieusement écornée, quoi. C'était fait un tel scandale. Voilà. Donc, cet accord, il a eu des effets immédiats et très importants. Il a permis de sécuriser entre 1500 et 1700 usines. Donc, on pense que le Bangladesh compte 2500, 3000 encore une fois, usine, c'est des bien grands mots, disons atelier de travail. Donc, c'était très important. Il y a une vraie sécurisation. Les donneurs d'ordre, les marques ont mis de l'argent. Et ce qui s'est passé au bout de 5 ans, donc cet accord durait 5 ans. Et au bout de 5 ans, il y a eu vraiment une concertation entre le gouvernement du Bangladesh, la fédération patronale locale de l'habillement qui est très puissante, dont le bâtiment lui-même est construit de manière totalement illégale sur un terrain meuble, c'est un grand bâtiment luxueux, voilà, ça montre aussi la connivence entre le milieu politique et économique de l'habillement au Bangladesh qui est vraiment stratégique pour le pays et les grandes marques qui ont décidé qu'au bout de 5 ans, cet accord, elles n'en voulaient plus. Et donc, il y a eu une action en justice contre l'accord. Donc, l'accord, c'est à la fois un accord c'est à la fois un contrat, mais c'est aussi une institution, si vous voulez. Il y avait des bureaux au Bangladesh, 50 personnes avaient été embauchées pour organiser les inspections, organiser le suivi. Et donc, il y a eu une action en justice contre l'accord, qui est la Cour suprême a voté en faveur du fabricant qui avait dénoncé l'accord parce qu'il l'embêtait dans ses rénovations. Et l'accord a été expulsé. Et ça a fait quand même un tollé dans nos milieux. Et donc, on a essayé de négocier avec le gouvernement du Bangladesh. Il y a une pression aussi un réseau interposé pour dire le Bangladesh reculerait sur quelque chose de très emblématique à ne pas vouloir que l'accord reste parce que les rénovations ne sont pas terminées. Donc, entre 2018 et 2021, il y a eu un nouvel accord. Et l'idée, c'est donc transitoire. Moins contraignant, l'accord est quand même expulsé. Il a été remplacé par une espèce d'instance tripartite bangladaise avec les ONG en supervision. Et là, a priori, l'accord, enfin donc cette instance, l'idée c'était que l'État construise des institutions assez sûres pour garantir cette question au moins de la sécurité, hein, parce que là on ne parle que de la sécurité et pas des salaires de misère, de la liberté syndicale, etc. Ce qu'on voit au Bangladesh, c'est que le pays a vraiment envie de tourner la page et de recommencer le business as usual, et qu'on arrête de mettre la lumière sur finalement cette industrie qui est une industrie de misère, hein, pour les travailleuses et les travailleurs. À nouveau, là, 2021, on vient d'entamer 2021. Donc voilà, pour conclure, il va y avoir à nouveau des négociations pour qu'il y ait encore une instance de vérification des usines au Bangladesh, mais c'est possible que là, on perde, quoi, en gros. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais...
Oui, oui. Et là, j'ai sous les yeux le bouquin « Devoir de vigilance » d'Olivier Petitjean, et il dit qu'actuellement, encore des centaines de petits accidents faisant peu ou pas de victimes continuent d'avoir lieu toutes les semaines, ou presque, dans les ateliers textiles du Bangladesh ou d'ailleurs. Seuls les plus spectaculaires parviennent à se frayer un chemin jusqu'aux médias occidentaux, à côté des pages de pub pour Zara, Adidas ou les autres marques qui s'y approvisionnent. Voilà.
À propos des, je voudrais revenir sur les plans de vigilance, sur l'analyse. Alors, j'ai regardé quelques documents, et notamment le bouquin de Petitjean, mais sur l'analyse qui a été faite par les ONG des plans de vigilance, il ressort que parmi les multinationales qui en ont fait, et il n'y en a déjà pas beaucoup, et celles qui ont fait un plan de vigilance, repèrent bien la notion de santé-sécurité, s'intéressent à ce sujet, mais ne s'intéresse pas du tout ni aux salaires extrêmement bas qui ne permettent pas aux gens de vivre, ni aux durées excessives du travail qui, en tant que telles, sont transparentes, ne sont pas visibles. Alors, je me demande, et quand on regarde le contenu de la loi sur le devoir de vigilance, la manière dont la manière dont les thèmes sont libellés, ne permettent pas vraiment de faire rentrer ces notions-là dedans. Et il va falloir sûrement se bagarrer au plan juridique pour arriver à ce que cette loi intègre aussi ces domaines-là, c'est-à-dire des salaires bien trop bas par rapport au minimum vital dans le pays où travaillent les personnes, et puis le problème des durées de travail qui sont excessives et qui sont à l'origine d'accidents, mais tant qu'il n'y a pas d'accident, ça ne se voit pas, quoi. Et je ne sais pas qu'en pense Naïla, justement.
C'est des discussions qu'on a eues aussi de manière très approfondie sur la loi. Il ne fallait pas qu'on ne voulait pas produire de plan de vigilance type, précisément pour ne pas transformer finalement ce plan en une liste de cases à cocher qui ferait que les entreprises pourraient se dédouaner d'une liste validée par les ONG et les syndicats. Et la question du plan de vigilance, on a mis 5 items, en fait, dont le premier, c'est cartographier ses risques. Ça veut dire que déjà, la multinationale doit savoir où elle produit et dans quelles conditions. Rien que cette étape n'est pas réalisée. Et donc là, vous avez des différences d'interprétation. Les entreprises disent « on doit avoir fait une cartographie, mais la loi ne dit pas qu'on doit la publier ». Donc nous, on se bat là-dessus. Et en fait, c'est un boulot colossal. Idéalement, enfin, ce n'est pas aux ONG d'aller vérifier que la loi est mise en œuvre. Pendant ce temps-là, il y a Sherpa et le CCFD Terre Solidaire qui ont fait un boulot remarquable avec DataActiviste pour aller croiser des bases de données déjà pour savoir quelles sont les entreprises concernées par la loi. Ça, c'est le boulot du gouvernement. Et donc, pendant longtemps, on a émis des recommandations, des communiqués de presse, on a rencontré les responsables pour dire est-ce que l'État compte se doter d'une instance de contrôle ? Parce que sinon, votre loi n'est pas effective. Et on nous a gentiment félicité de faire notre boulot correctement, mais là où on est capable de vérifier 3 plans de vigilance, il faudrait en vérifier 200 en fait. Donc c'est ça la difficulté. Et puis c'est le plan de vigilance, il va être propre à chaque entreprise. Parce que entre Total, Dassault, Carrefour ou des entreprises plus petites, les risques vont dépendre de là où elles opèrent. En revanche, dans à la fois l'exposé des motifs et le champ d'application, enfin les domaines concernés, on a bien indiqué que sont concernés tous les droits fondamentaux encadrés par les textes et conventions internationales comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans lequel il y a la question des salaires, les normes de l'OIT. Donc, le cadre normatif, il existe. Et à côté, Sherpa a fait un travail de guide sur la définition du plan de vigilance plutôt pour ce qu'on appelle les parties prenantes internes, donc les syndicats par exemple. Donc finalement, on a trop mâché le boulot aux entreprises. Il y a un marché énorme sur le devoir de vigilance. Il y a plein de cabinets qui peuvent vous faire votre plan. La question, c'est la question de la volonté politique en fait. Les entreprises n'ont pas envie de le faire parce qu'un bon plan, ça veut dire revoir son modèle. Ça veut dire que quand on s'appelle Carrefour, qu'on sous-traite au Bangladesh, on doit avoir mis dans son plan de vigilance les risques, c'est au Bangladesh. Sous-traitance dissimulée, ça veut dire qu'en Chine, il y a la question des Ouïghours, du travail forcé. Et en face, elle doit dire les mesures qu'elle prend pour prévenir ces risques. Et c'est ça que le juge va juger. C'est là la difficulté, c'est que ces mesures deviennent opposables juridiquement. Donc, moins on en met dans son plan, moins on s'expose. Et donc, nous, on doit voir le plan, arriver à confronter les données du plan avec les infos de terrain qu'on a sur les violations. Et tout ce travail, il est long, fastidieux. Et en plus, on a désormais la bataille du juge. C'est-à-dire qu'en plus, on veut la bonne juridiction. Voilà, donc, à la limite... cette loi, bon, elle reste fondamentale, mais là, ce qu'on essaye, c'est d'aller plus loin, en fait. Et nos billes, maintenant, c'est dans la directive européenne, dans le traité international onusien. C'était sûrement pas une loi parfaite, ce sont des tentatives. Voilà, donc, voilà, work in progress.
Je crois que Jean-Pierre veut prendre la parole.
Oui, sur la Chine, justement, je signale que il y a un article qui est sorti dans Le Monde hier, qui signale que l'accord Union européenne-Chine de libre-commerce a été publié hier, et qu'on y trouve effectivement pas beaucoup de précautions en ce qui concerne les droits de l'homme et tout ça, c'est-à-dire que ça reste vraiment tout à fait, les Ouïghours en particulier, totalement ignoré. Donc, à prendre connaissance de ce, parce que c'est un rapport, c'est pareil comme toujours, qui a été élaboré dans le plus grand secret. Jusqu'à maintenant, personne n'en avait connaissance. Il a été publié hier. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à savoir. Et puis, bien sûr, nos amis chinois, il faut leur faciliter nos investissements chez les Chinois et faciliter la venue des matières chinoises. Et ce que dit le Monde, j'ai pas lu en entier l'article parce que je ne suis pas abonné, c'est qu'en particulier, les Allemands en Europe poussent beaucoup là-dessus parce que c'est important pour leur exportation. D'accord ? Voilà, bon, je n'en dis pas plus, mais à savoir, c'est une information à prendre en considération.
Oui, c'est un autre combat. Alors là, c'est même un accord d'investissement. Et pas de libre-échange et oui, ça fait partie des combats un peu globaux de faire en sorte que les accords de commerce et d'investissement soient conditionnés au respect des droits fondamentaux. Donc en effet, c'était pas le moment étant donné les crimes contre l'humanité commis contre les Ouïghours de signer ce type d'accord d'investissement. Donc des voix s'élèvent au Parlement européen, mais malheureusement pas suffisamment fortes.
Alors, je vois un message de Christ. Pardon.
Effectivement, pas voté encore au Parlement européen. Pour le moment. Il y a quand même une majorité des PPE, etc., qui risque de faire passer ce genre d'accord. Voilà. Bon.
D'accord. Je vois un message de Christiane, là, qui insiste. Elle avait déjà suggéré l'idée d'une cagnotte contre Total. Cela peut être mobilisateur localement, plus peut-être qu'une signature sur une pétition. De plus, c'est un problème environnemental et les jeunes y sont très sensibles. 1 euro, cela engage. Cela ne nous empêche pas d'agir pour une directive européenne. Alors, est-ce que ce genre d'action est lancé, cagnotte?
Alors, je ne comprends pas bien l'objet de la cagnotte.
Contre Total, mais peut-être pour le procès, là, pour l'appel.
Pour nous donner de l'argent aux ONG.
Je pense, j'imagine. Ben, enfin, si Chrétienne veut prendre la parole, oui. Si elle veut compléter.
Oui, je veux bien.
Voilà.
Oui, tout à fait. Je veux dire par là que ça coûte cher d'aller faire une procédure en cassation. Bon, là, on a la preuve d'une mauvaise foi absolue. Nous renvoyer sur un tribunal de commerce, c'est se payer la tête de nous tous. Et ben, en contrepartie, on va, avec tous nos réseaux locaux, être capable de proposer une cagnotte. Mettez-nous 1 euro, ça vaut plus qu'une signature. Et au moins, vous récoltez en échange un peu de moyens pour réussir, parce qu'on a eu ce problème quand même, vous l'aviez évoqué, pour soutenir les avocats qui défendaient les Amis de la Terre. Mmh. Et donc, ça coûte des sous. Donc. Mmh. Et je pense que là, on a un outil. Bon, il suffit de faire une cagnotte comme il y en a tant et on les propose à nos réseaux. Mmh. Et tous les syndicalistes de notre région ne peuvent que relayer. Je veux dire, là, on a vraiment… Puis c'est français, c'est franco-français, là. On a oui. Une opportunité à saisir. Hein. Ouais.
Bon, Naïla.
Ouais, on va la noter. Pour l'instant, on a réussi à financer nos actions en justice parce qu'elles ne sont pas si nombreuses. Et ça n'a pas, pour l'instant, ça n'a pas été un obstacle. Bon, c'est notre première action, donc on arrive aussi à mutualiser des frais d'avocat et puis à trouver des avocats engagés, en fait.
Oui, c'est ça.
Aussi des convictions, des valeurs.
Bien sûr.
Mais pourquoi pas, ça peut être un outil de mobilisation citoyenne. En effet, vous aussi, prenez part à cette action. Je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que quand de gros organes… Bon, nous, on n'est pas gros, mais sur des cas, quand il y a vraiment d'énormes frais de justice, on est capable de dire on a besoin de 25 000 euros, aidez-nous, je pense que ça peut marcher. Là, les montants sont beaucoup moins importants. Et pour l'instant, on est assez fort aussi pour pouvoir faire ce type d'action. Mmh. En effet, si on est confronté à des montants beaucoup plus importants, ça pourrait être une bonne idée aussi, en effet, de proposer aux citoyens, avec nous en fait, oui. C'est un moyen de lutter pour un monde plus juste. Quoi. Mm.
Et comment autrement mettre la pression sur cette directive européenne au niveau des médias, par exemple, Naïla, qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est vrai que lorsque on communique avec des actions concrètes comme des dying ou des manifestations devant l'Assemblée nationale. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le confinement ou le climat actuel, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des choses visuelles qui frapperaient un peu l'opinion pour qu'on parle plus de toutes ces causes? Je ne sais pas.
Oui, c'est un boulot qu'on fait un peu en continu, en fait. Et autour du procès Total, il y a eu pas mal de médiatisation qui nous a valu aussi des échanges avec les avocats de Total qui ont même cité pendant le... Donc, nous, on était en intervention volontaire en appel. Et donc, ce que font les avocats, c'est aussi citer les tweets, citer les procès d'intention. Donc, il y a aussi, voilà, c'est un peu sensible, mais on essaye de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a désormais des journalistes qui suivent de près ce sujet. Ah. Et il y a des sujets pour lesquels on a comment, besoin d'une très forte mobilisation citoyenne et d'autres pour lesquelles des actions plus ciblées sont plus utiles. D'accord. Et pour nous, c'est important d'avoir... Donc, je trouve qu'on arrive à le faire, et ce qu'on veut aussi en tant que défenseur de tous les droits et défense de l'état de droit, c'est faire en sorte que... Enfin, respecter les décisions de justice et essayer d'avoir confiance dans un système judiciaire. Donc, éviter de critiquer des décisions, même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas remettre en question, on croit fondamentalement à l'action en justice et aussi à l'indépendance de notre justice. Voilà. Mais en effet, on fait ce travail d'aller cibler des journalistes qui vont suivre ces procès. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de journalistes de médias déjà un peu engagés, je dirais, ou orientés sur des questions de justice sociale et environnementale, comme Reporter, Bastamag, mais on est à des millions de clics sur ces journaux. Ce sont des journaux quand même qui ont une belle audience. Mm-hmm. Et à côté de ça, Le Monde, Libé nous suivent, France Culture, voilà. C'est vrai que c'est pas Hanouna qui a invité une représentante, je mets mille guillemets, de génération identitaire, mais voilà aussi l'état du débat aujourd'hui, et aussi les responsabilités des médias dans leurs choix éditoriaux. Voilà. Mais en tout cas, le moment venu, on manquera pas de mobiliser aussi les militants pour des actions plus visibles. Lorsque c'est nécessaire, sur les Ouïghours, ça a très bien pris. Et là, on est moins dans une action en justice. Il y a vraiment une action concrète, quotidienne à avoir. Raphaël Luxman fait beaucoup ce travail à travers les réseaux sociaux et on est en lien, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un peu les réseaux, la notoriété. Et en revanche, ils n'ont pas nécessairement l'expertise et le dialogue avec les entreprises. Donc là, on est parti ensemble rencontrer Kering, etc. Donc, il y a aussi ces collaborations, ces liens qui se créent pour faire en sorte qu'on soit plus fort, en fait. Mais en effet, on doit aussi chercher des moyens de se mobiliser confinés. On est nous-mêmes tous confinés. Éthique sur étiquette, c'est une petite ONG. Hein. On est deux maintenant, ça, c'est super, mais on est un gros collectif. Mais on reste petit encore en ressources humaines. Donc on cible.
Bien sûr.
Nos actions.
Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Anne-Marie, vas-y.
Moi, je reviendrai bien sur une question du salaire, parce que le combat éthique sur l'étiquette, c'est aussi celui d'un salaire vital, notamment au Bangladesh. Hein, on a mené des campagnes de pétition, des actions, etc. Les ouvriers et les ouvrières se sont battus au Bangladesh en 2016, 2017 et puis avant et même après. Des milliers d'ouvrières ont mené des manifestations, ont protesté, soutenues par des syndicats. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une sévère répression. Ensuite, il y a eu en avril 2018 un front uni pour une augmentation du salaire minimum, mais ce salaire minimum n'a jamais atteint 200 euros, qui serait le salaire minimum pour pouvoir satisfaire presque les besoins fondamentaux. Alors, j'aimerais peut-être, Naïla, que tu nous dises un petit peu un mot de cette bagarre-là. Aujourd'hui, je ne sais plus, en 2020-2021, quel est le salaire de ces ouvrières de l'industrie textile. Est-ce qu'il a vraiment augmenté? On est encore très loin des 200 euros, des 200 dollars, pas euros, dollars, bien sûr. Oui.
D'une manière générale, dans les pays de production textile, donc ça, c'est une enquête d'un réseau qui s'appelle Fair Wage Network, donc le réseau pour des salaires justes. On estime qu'il faudrait multiplier les salaires de 2 à 5 pour avoir des niveaux de salaire vital dans les pays de production textile. Donc, c'est quelque chose de central et c'est très compliqué parce que c'est tout le modèle économique du secteur qui est fondé sur les bas salaires, notamment depuis l'arrivée de ce modèle qu'on appelle la fast fashion, donc c'est cette mode de... à petit prix, qui renouvellent constamment les collections, souvent des vêtements de piètre qualité. Et je dis souvent aux étudiants, parce que maintenant je suis passée de l'autre côté, qu'on s'est habillé autrement. Ma génération, il y a 20 ans, ça n'existait pas en fait. H&M, Primark, Zara sont arrivés massivement, disons, dans les années, au début des années 2000. Ça veut dire qu'avant, on s'est habillé autrement, indépendamment des classes sociales, voilà, et on se distinguait. Comment peut-être les moyens financiers ont distingué par l'argent qu'on était capable d'investir dans des marques intermédiaires, etc. Mais il n'y avait pas ce système. Donc, ce système a été créé, en fait. C'est un besoin qui a été créé. Et ce n'est pas les consommateurs qui, tout à coup, se sont dit « je veux plein de vêtements à bas prix ». Ça, je trouve ça important parce qu'on parle souvent de la responsabilité du consommateur. Elle est centrale, mais elle est sans commune mesure avec celle des multinationales et des pouvoirs publics qui encouragent ce type de modèle. Comment faire pour consommer autrement quand pullule à côté de chez soi, et encore, je dis à Paris, on est un peu privilégié sur cette question des petits commerces, des commerces de ville, etc. Mais moi, mon père est en banlieue parisienne. À côté de chez lui, il n'y a que des centres commerciaux dans lesquels 1 euro sur 2 dépensé va dans les poches d'Auchan. Et là, vous allez trouver les Kiabi, les CEA, les Primark, les... bon, voilà, je digresse un peu, mais ça, cette question de la responsabilité individuelle, elle est centrale comme acte citoyen, mais on ne doit pas dépolitiser. Quand je dis « on », c'est évidemment les pouvoirs publics, les marques qui font reposer la responsabilité sur le consommateur. Il faut qu'on change ces modèles. Et il faut qu'on change ces modèles en disant « on ne doit plus avoir une industrie dont le modèle économique est production à bas coût pour vendre à bas prix, en volume pour faire du profit ». H&M et Primark font des milliards de chiffre d'affaires parce qu'ils compensent leur faible coût d'achat en volume. Et donc, ils ont des stratégies de déploiement de leurs boutiques dans les centres-villes et pas que les centres-villes, et en ligne, parce qu'ils ont besoin de vendre beaucoup en volume. Or, le secteur de l'habillement est un des secteurs les plus polluants et responsable, je ne sais plus, de 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est monumental, en fait. On ne sait pas recycler du textile. On recycle 15 à 20% des textiles dans le monde. Tout le reste, on ne sait pas le faire. Et la fast fashion qui produit des vêtements dégradés de piètre qualité avec des fibres très mélangées nous empêche. On ne sait pas recycler un vêtement qui est composé à 5% de viscose, 10% d'élastane, 30% de coton, 10% de cachemire. Enfin, donc, voilà, il y a tous ces enjeux. Et donc, en effet, il faut qu'on trouve les moyens d'avoir une industrie dans laquelle on cesse de faire pression sur les coûts pour vendre en volume. Et il y a un gros travail d'élévation des salaires au niveau national dans les pays de production textile. Et en effet, là, il y a une responsabilité des États, et les accords commerciaux d'investissement sont un bon exemple, où il faut qu'on puisse augmenter les salaires. Nos derniers rapports, c'est en Europe. Bulgarie, Ukraine, Bulgarie, Ukraine, Serbie, Monténégro, les femmes gagnent parfois 40 euros de au mois. C'est peut-être pas les mêmes conditions de travail qu'au Bangladesh, mais ce sont aussi des femmes exploitées, et là, c'est en Europe. Donc, il y a vraiment toute une industrie à repenser, un nouveau modèle économique à défendre, avec une grosse responsabilité des pouvoirs publics. Et notre responsabilité individuelle, elle est une responsabilité, bien sûr, de consommateurs et puis citoyennes. Les actions de pétition, les actions en ligne, l'interpellation sur les réseaux sociaux, l'interpellation des députés, tout ce qui fait qu'on arrive à mieux réglementer, pour moi, enfin, aujourd'hui, c'est là qu'on aura les transformations de modèle, tout en repensant, bien sûr, ces modes de consommation. Mais c'est, je crois, très difficile quand on est né avec des vêtements à 4 euros, de tout à coup repenser ces modes aussi de consommation quand la part de l'habillement dans le panier de biens est si dérisoire, et quand en plus il y a des disparités sociales qui se creusent et puis une paupérisation de beaucoup de personnes qui n'ont plus trop le choix que d'aller acheter pas cher. Alors on a toujours le choix de pas acheter, d'acheter 2 t-shirts plutôt que 8 parce que c'est pas cher. Et là, c'est vrai qu'il y a une rééducation et oui, du consommateur à faire, mais je pense que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics, en fait.
Alors, je note dans le chat les références du livre d'Olivier Petitjean. Mmh. Voilà. Alors, vous voulez que je ne fasse pas de bêtises.
Il est très facile à lire, très intéressant. et je trouve très, très facile à lire.
Oui, oui.
Donc, je vous le recommande.
Tout à fait. Alors, devoir de vigilance.
Alors, on peut le commander auprès du collectif Éthique sur l'étiquette ou du collectif de Toulouse.
Ah, d'accord. Oui, ouais. C'est là que je l'ai eu.
Voilà. On n'en a plus, mais on en recommandera.
Ah oui, on vous en enverra plein.
D'accord.
Je voulais revenir sur Jacques et Milo. Je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, Neila. Je pense que...
Françoise, je crois qu'il y avait une question aussi
oui,
sur
oui, oui.
Le patriarcat.
Oui, voilà. Mais on a déjà un petit peu abordé. Enfin, on peut le reprendre, mais il y a quelqu'un qui a pris la parole, là, je ne sais pas qui c'est.
Jacques, c'est Jacques.
J'ajouterai
Jacques, ce que d'accord.
Je dirais, par rapport à ça, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai appris que les salles de cinéma au Bangladesh ne sont pas autorisées aux femmes, elles sont réservées aux hommes. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est toujours vrai?
Alors, tu me l'apprends et je n'ai aucune idée sur cette question.
J'ai lu ça, je n'ose pas vous le confirmer, mais je me suis dit, oh là là, ça en dit long. Ouais.
Il y a encore du travail, oui. Ah là là.
Je crois que quelqu'un a pris la parole.
Par là, oui.
Qu'est-ce que j'ai vu, Claire?
C'est Jacques, d'accord. Vas-y, Jacques.
Je voulais revenir sur ce que vient de dire Neila. Je pense que tout le débat que... Anne-Marie avait lancé sur les salaires, tu l'as très bien repris, Nella, oui, pour élargir ce sujet, parce que je pense que tout le modèle économique que tu décris dans ce textique, il est aussi valable souvent ailleurs. Hein. Il est particulièrement fort en textique, mais pas que là. Toute la société de consommation à bas coût qu'on renouvelle tous les 6 mois, les smartphones, c'est pareil. Hein. C'est un gâchis absolument monumental, un gâchis de ressources, un gâchis de matières premières, on peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, cette question-là, tous les pays développés se la posent, enfin, tous les consommateurs se la posent de plus en plus, et ça nous force, nous, à en particulier, moi, je pense à nos petits-enfants.
Jacques, parle plus près du micro.
Oui, ben là, devant moi, je vais faire mieux. Je dis que le comportement de nos petits-enfants...
C'est mieux.
Par rapport à tous ces problèmes de consommation, c'est pas que dans le textile, encore une fois, tous les appareils électroniques divers et variés, c'est le même problème, quoi. C'est du jetable, du remplacement tous les 6 mois. Enfin,
c'est sûr.
Le problème de l'éducation, je pense en particulier à nos petits-enfants, parce que c'est un conflit permanent, quoi. Donc, moi, je me suis battu avec mes petits-enfants parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont complètement... formatés par la société de consommation, il n'y a pas moyen de les faire changer. C'est un combat, mais c'est faramineux. Je pense que cette question-là, elle va se poser de plus en plus. Quoi. Les ressources de la planète sont limitées, on le sait, et si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Enfin, c'est une évidence. C'est une évidence. Enfin, je trouvais que le débat que tu avais lancé est bien plus large que celui que strictement réservé au textile.
Oui, bien sûr. Mais avec une particularité quand même, c'est-à-dire qu'à la différence de l'industrie électronique que tu évoques, dans laquelle il y a une forte valeur ajoutée, il y a un niveau de technicité, c'est très différent dans le secteur de l'habillement. C'est vraiment le secteur à forte intensité de main-d'œuvre et à faible qualification. Et il y a un faible niveau de technicité. Donc, c'est particulièrement prégnant dans le secteur de l'habillement parce que, mais c'est aussi une erreur, on pourrait investir encore une fois dans une industrie de qualité en formant des ouvrières, des ouvriers et en élevant. Il y a des pays dans lesquels il y a d'autres niveaux de qualification dans le secteur de l'habillement. Un smartphone, low cost, bon, il y a beaucoup de renouvellement, c'est vrai. Comme quoi, tout n'est pas seulement lié au pouvoir d'achat, parce qu'en effet, on a des jeunes, moi j'ai fait des interventions au milieu scolaire, ça fait longtemps, mais ils me disaient, mais il faut que je renouvelle mon smartphone, et je lui dis, ah bon, pourquoi? Et elle me dit, bah parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Et évidemment qu'à 15 ans, je ne suis pas certaine qu'on ait besoin des fonctionnalités de l'iPhone 7 à l'iPhone 8. Donc, il y a toute cette éducation, mais c'est vrai que dans le secteur de l'habillement, on peut produire des vêtements à 2,50 et les vendre à 4 euros en raison du faible degré de valeur ajoutée en fait du secteur. Donc c'est vraiment emblématique en fait de cette pression sur les coûts. À un moment, quand on veut un niveau de technicité, on ne peut pas pressuriser les coûts autant qu'on peut le faire là où il n'y a pas de besoin, encore une fois, de main-d'œuvre à forte qualification. Et puis la question du volume, ces magasins ont besoin, pour compenser leur faible coût, de s'étendre en masse et en volume. Et donc les déchets, donc c'est très important dans l'électronique, mais dans l'habillement, ils sont considérables, parce que les vêtements sont, c'est vraiment c'est l'obsolescence programmée dans le vêtement, en fait. Le vêtement est conçu pour ne durer que, les chiffres sont terrifiants, c'est 5 semaines, je crois, un vêtement H&M, 4 lavages, avant qu'il ne se déforme, qu'il perde sa couleur. Voilà.
5 semaines, un vêtement H&M, voilà. Ou 4 lavages.
Aïe, aïe, aïe.
5 semaines, un vêtement H&M.
5 semaines,
en moyenne, les chiffres, voilà, ça ne veut pas dire que tous les vêtements sont comme ça et que nous, on va forcément acheter ça, mais quand vous regardez les chiffres de la fast fashion, c'est en moyenne 5 à 6 semaines, enfin la mode jetable, je trouve que c'est bonne incroyable. Traduction en français.
Ouais. Bon.
Pierre a demandé la parole, là, je vois.
Oui.
Oui, non, Pierre.
Oui, mais moi, je voulais revenir sur le film lui-même. Ce film, Made in Bangladesh, il est vraiment remarquable. Et je crois que, puisqu'on est encore une trentaine, là, je pense, à être dans le débat,
26.
Il faut en faire la promotion, parce que tout est dit de façon très subtile, hein, parce que elle cite juste au tout début le fait qu'elle a échappé à un mariage forcé à 14 ans, etc. Il y a l'oppression patriarcale, il y a l'oppression du mari, il y a l'oppression religieuse où le mari lui dit qu'il faut être humble et où elle est obligée de porter le hijab. Il y a l'oppression patronale, bien sûr. À la fin, l'oppression politique avec le fonctionnaire qui est... Tout y est, y compris le passage des représentants des multinationales dans l'atelier. Vous avez dit tout ce coup, eh bien, ça va, bon, tout est réglé. Et y compris, au tout début d'ailleurs, l'accident avec un décès.
Oui.
Et tout est par petites touches, mais tout est, enfin, tout, peut-être pas tout, bien sûr, mais l'essentiel est dit de façon très subtile. En plus, il est très bien joué. Et
il est
très beau.
Oui, c'est vrai.
Donc, n'hésitez pas, je voudrais dire, faites la promotion de ce film. Il est encore sur la plateforme et on le trouvera ailleurs. Vraiment, voilà.
Oui, oui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est joué. Il est joué par des ouvrières, enfin, ce n'est pas des comédiennes, c'est vraiment des
ouvrières
qui ont été formées, qui ont appris à travailler un petit peu la couture de façon à pouvoir jouer dans le film. C'est ce que j'avais lu, tu nous le confirmes, Naïla.
C'est quoi, pardon, ça coupe un peu
Oui, le fait que les ouvrières que l'on voit dans le film ne sont absolument pas des actrices. Ce sont parfois des ouvrières ou des femmes qui ont appris la couture pendant quelques mois, mais ce ne sont absolument pas des actrices.
Mm-hmm. Oui, oui.
Ce sont des, ce sont pas des ouvrières. Écoute, j'ai un peu oublié le contexte parce que j'ai vu beaucoup de films.
Oui,
et de
le cas.
On a dû les faire. Elles ont, pour certaines d'entre elles, certaines connaissaient la couture, mais pour plusieurs d'entre elles, elles ont pendant plusieurs mois petit peu appris à se servir des machines, le contexte
pour le film.
Mais ce ne sont pas des actrices et des femmes de là-bas qui ont été formées, pendant quelques mois, pour pouvoir jouer dans le film. Et je trouve qu'elle joue remarquablement bien tout au long.
Oui,
des actrices.
Parce que je pense que ça fait écho à leur situation d'une manière ou d'une autre, à beaucoup de femmes dans le monde d'ailleurs. Hein, beaucoup de femmes dans le monde, je pense que toutes nos sociétés ont à se poser des questions sur la façon dont le patriarcat s'est imposé finalement, et donc il y a des choses qui nous choquent un peu plus parce que là-bas on a l'impression qu'il y a plusieurs couches, mais enfin on n'est pas en reste dans de nombreux pays. Je vous rappelle que les Argentines viennent juste d'obtenir le droit de l'avortement, y compris en cas de viol, de malformation, donc beaucoup de pays ont à se poser les questions du droit des femmes, en fait, et d'une égalité, pas seulement en droit, mais effective.
Tout à fait. Bien. Je vois qu'il est 19h33, que nos participants s'amenuisent un peu. On va peut-être clôturer ce débat vraiment passionnant en remerciant nos trois intervenantes, Naïla, Marie et Anne-Marie. Merci beaucoup pour votre passion, votre compétence. Continuez bien cette bataille à laquelle nous participons, eh bien, au niveau local, mais avec intérêt, beaucoup d'intérêt aussi. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente soirée. Et puis, continuons la mobilisation citoyenne, politique, tous ensemble. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci. Merci nombreux.
Merci, bonsoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.